Radio Okapi. Grande interview.
août 2020, cela fait une année que le gouvernement Ilukamba est entré en fonction. Quel bilan dressé du travail de ce gouvernement sur le plan politique, sécuritaire, économique et social? Nous en parlons avec David Jolino Makelele. Il est ministre d'État chargé de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement. Prise de son, Paul Badianyama, présentation et coordination, Kelin Kouté. Bienvenue à tous dans votre magazine. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
L'an 1 du gouvernement Ilukamba, il y a des acquis significatifs, certes, mais les défis sont encore énormes. La paix n'est pas encore totale, les besoins sociaux des bases ne sont pas entièrement satisfaits. La stabilisation de la monnaie reste encore une quête. Vous avez fait cette déclaration mercredi 26 août à l'occasion du premier anniversaire de votre gouvernement. Vous avez aussi indiqué, monsieur le ministre, que l'exécution du programme du gouvernement a été impactée par les travaux du programme présidentiel des 100 jours, dont les réalisations concrètes sont remarquables dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures routières et de la voirie urbaine. Mais commençons d'abord, monsieur le ministre, par le volet politique et sécuritaire. Comment se porte la coalition au pouvoir?
C'est une coalition, j'allais dire, qui relève de l'état des nécessités. C'est-à-dire que nous ne pouvions pas faire autrement. J'entends dire à gauche, à droite, notamment de nos amis de l'AMUKA, que le président aurait dû faire... D'abord, aurait dû faire sans nous dire de quelle manière, s'il y avait un président Lamuka à la tête de ces pays, je ne sais pas comment il aurait dû agir. Parce que si vous êtes respectueux de la Constitution, vous ne pouvez travailler qu'avec un gouvernement issu d'une majorité qui est au Parlement ou à l'Assemblée nationale. Alors, lorsque cette majorité se retrouve être d'un bord politique autre que le vôtre, vous n'avez qu'à composer. Soit vous passez par la cohabitation, c'est-à-dire une façon de gouverner ce pays dans des conditions conflictuelles, soit vous prenez la mesure de la situation et vous faites une coalition. C'est ce que nous avons fait. Et à partir de là, c'est un mariage des circonstances et pas forcément des convictions. Et nous avons mis l'intérêt du pays avant toute chose. Et cet intérêt du pays, donc, nous a conduit à avoir les forces du cash et celle du FCC se mettre ensemble, mais nous devons cheminer parce qu'il n'y a pas d'alternative à ça. Soit nous violons la Constitution, soit nous allons dans des circonstances qui vont nous amener dans des conditions inconnues. Ce que nous voulons éviter, c'est que les guerres puissent dissuader les investisseurs à venir au Congo, ou plutôt inviter les gens qui veulent la balkanisation du Congo venir en profiter.
Et comment attirer des investisseurs lorsque la coalition au pouvoir passe son temps à se rentrer dedans? La population ne se retrouve pas et se demande si réellement elle est au centre de vos préoccupations.
Bon, quant aux intérêts de la population, je ne pense pas que lorsqu'on parle vraiment des nominations à la magistrature suprême ou dans l'armée, cela puisse constituer un motif particulier de tension au sein de la population, de la même manière qu'on parlerait des aspects sociaux et économiques. Mais ce qui est vrai, c'est que chacun de nous a à cœur de veiller à ce que la Constitution soit respectée et qu'il reste dans ses prérogatives, j'allais presque dire, normales. Et à partant de ça, chaque parti ou chaque membre d'une coalition, au-delà du souhait qu'il peut avoir de voir cette majorité-là nouvelle et réussir, une philosophie sur base de laquelle sa politique a été conduite pendant la campagne, et c'est normal qu'elle cherche à l'exercer comme cela a été promis au niveau des électeurs. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que nous avons besoin d'une unité de vue, puisque nous avons fait un programme commun que nous assumons ensemble et que nous entendons assumer demain. Et tant que les deux autorités morales seront au même diapason de la compréhension de ce que le peuple veut et de ce que toutes les deux composantes veulent, je pense qu'on ira. C'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est un mariage de raison et il y aura toujours beaucoup de gens au sein du FCC à ne pas souhaiter peut-être une coalition, mais plutôt une cohabitation, de même qu'il y a des gens au sein du CRECH qui préféraient une autre majorité autour du président que celle-ci. Mais, je le dis, c'est un état de nécessité. Nous n'avons pas voulu brader la santé et la sécurité de notre pays. Et je le dis, je le répète, je l'ai toujours posé cette question, qu'on me dise celui qui aurait été là s'il n'était pas du CRECH, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée, au moment de l'élection, qu'est-ce qu'il aurait fait pendant ce premier année, disons, de mandat. Et je n'ai toujours pas reçu, naturellement, de réponse à cette question.
Puisque nous parlons du volet politique, quelle est la position du gouvernement sur les différentes démarches menées par certaines structures et même certaines personnalités pour arriver à un consensus sur les réformes électorales?
Oui, nous l'avons dit et le président de la République l'a répété en Conseil des ministres. Il faut essayer de rechercher le consensus le plus large que possible en ce qui concerne cette matière. Ça veut dire, en d'autres termes, nous avons connu 3 cycles électoraux. Ces cycles ont été émaillés de contestations parce qu'il y avait des soupçons ou parce que tel composant, tel membre de cette entité CNI avait des accointances peut-être avec tel autre groupement politique. Nous voulons que cette fois-ci, nous soyons vraiment en situation de nous dire non, nous croyons en cette CENI et cette CENI va produire des belles élections. Pour cela, évidemment, il faut que les animateurs soient aussi, comme je l'ai dit, au-dessus de tout soupçon. Et donc, nous avons constaté tout simplement qu'il n'y avait pas consensus ou plutôt unanimité en ce qui concerne les personnes qui a été investies par l'Assemblée nationale. Et donc, en ce sens-là, nous disons toutes les initiatives qui sont prises à gauche, à droite, pour rechercher ces consensus sont bienvenus, mais nous sommes aussi respectueux de nos institutions. Nous tenons à ce que ces initiatives puissent finir au niveau du Parlement, ce qui est le creuset de la démocratie dans notre pays. Et c'est en son sein, après que les gens aient parlé entre eux, soit à travers les groupes que vous évoquez, soit entre majorité et opposition, et qu'un consensus se soit dégagé, qu'on pourrait y arriver. Mais il y en a d'autres encore qui pensent que, avant d'arriver à des hommes, à la situation concernant les animateurs, il faut absolument revisiter la CENI, ses structures, son fonctionnement, son mode de fonctionnement. Et donc, le débat est là. Je ne sais pas dans quel sens ça va aboutir, mais tout ce que nous voulons, nous, en tout cas le président de la République l'a dit, c'est qu'il veut des solutions consensuelles sur l'ensemble du secteur électoral.
De la politique à la sécurité, il n'y a qu'un pas. Vous avez affirmé que sur le plan sécuritaire, beaucoup de choses ont été accomplies, soulignant la détermination du gouvernement à éradiquer toutes les forces négatives avec l'appui de l'ensemble de la nation et de la MONUSCO. Quelqu'un qui vit à Beni, Masisi ou Djougou, bref, dans les zones en conflit, ne parlerait pas le même langage que vous, monsieur le ministre. Tous les jours, on compte des morts, on massacre la population. On ne peut pas dire que la sécurité a été rétablie.
Non, je n'ai pas dit que la sécurité est rétablie. Non, je mentirais en le disant. Mais je ne peux pas ne pas compter sur vous pour constater qu'il y a eu des progrès quand même. Mais ces progrès sont rien par rapport aux vies humaines qui continuent à être perdues. Mais c'est dû à la façon dont l'adversaire agit. Ils agissent de manière impromptue, ils sortent des villages ou de la forêt pour venir attaquer brusquement. Donc ce n'est pas une guerre normale. Mais je peux vous dire que nous essayons de nous adapter, nos forces armées et nos forces de sécurité, de nous adapter à cette situation. Et c'est ce qui fait que, petit à petit, on commence à voir ces forces-là négatives qui n'opèrent plus comme ils opéraient avant, alors qu'ils avaient beaucoup de groupes, il y avait beaucoup de groupes armés. Maintenant, il y en a peut-être un peu moins, mais qui ont changé de façon d'agir et qui viennent, disons, de faire des coups, si je veux dire, et pas se mettre en situation d'affronter le FRDC directement. Quand vous voyez la pression mise par le RDC sur les groupes armés aujourd'hui, cette pression a fait que nous commençons à avoir des redditions, ce qui veut dire bien dire que les gens ont compris que par la force, ils auront du mal à vaincre l'armée congolaise. Donc le gouvernement continue de se préoccuper de ces situations. Nous partageons la douleur qui affecte les membres de notre communauté qui sont concernés par ces actes dangereux. Mais nous pensons que petit à petit, au fur et à mesure qu'on avancera, nous aurons des résultats un peu plus probants que ceux d'aujourd'hui.
Vous avez parlé de la reddition de plusieurs groupes armés, c'est à féliciter. Mais ces miliciens, lorsqu'ils se rendent, ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Du coup, ils sont obligés de retourner en brousse et commencer à tracasser la pauvre population.
Oui, vous avez raison sur ce plan-là. Nous l'avons relevé nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il est question, on l'a dit dans un des conseils des ministres, qu'il fallait absolument mettre le paquet sur le DDR et puis surtout bien encadrer les miliciens qui se rendent et qui ne demandent qu'à être encadrés dans une perspective plus constructive que celle de la guerre. Et donc, le gouvernement a décidé de mettre les moyens. Le ministre de l'Intérieur a été instruit de veiller à ce que cela se passe rapidement. Nous l'avons dit, que ce soit les gens des FRPI et autres Codeco qui se sont rendus et qui nous ont aidés, qui nous aident à parfaire cette démarche à travers des contacts avec d'autres groupes armés qui veulent bien rentrer, mais qui ont besoin d'assurance quant à leur sort et à leur essor économique et social. Donc nous y veillons, croyez-moi, c'est une priorité du gouvernement. Et vous allez vous rendre compte que de plus en plus, dans les jours qui viennent, puisque les moyens ont été demandés, ils sont sur le point d'être décaissés, que cela se fera.
Le président de la République avait promis à la population de Béni de passer les fêtes des fins d'année avec elle. Quand je parle des fêtes des fins d'année, c'est-à-dire 2019-2020, malheureusement, ça n'a pas été le cas à cause de l'insécurité. Est-ce que cette population peut compter sur votre gouvernement pour se dire qu'un jour, la paix va revenir dans ce coin et qu'elle va retrouver, elle, la population, va retrouver le sourire?
Oui, d'abord, je dois dire ici que si le président ne s'y est pas rendu, c'est pas forcément ou seulement à cause de problèmes de sécurité, mais un problème d'agenda qui était bousculé et qui a fait qu'il ne pouvait pas s'y rendre. Mais pour bien montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour bien montrer qu'il était préoccupé par les souhaits manifestés par ces populations, et notamment le changement du commandement des troupes à Béni, il l'avait fait. Ce n'était pas chose facile, je peux vous le dire, mais il l'a fait, à continuer à restructurer l'armée dans le sens de rencontrer certaines préoccupations aussi qui ont été exprimées, entre autres, par les gens qui vivent cette insécurité dans Béni et les alentours. Pour le reste, la promesse qui peut être faite à ces populations-là, c'est d'abord de participer à la dénonciation. La nouveauté dans cette histoire, c'est qu'on retrouve dans les groupes armés des gens qui sont parfois soutenus ou plutôt informés par des membres de leur famille qui restent dans la communauté non belliqueuse. Et ça pose des problèmes. Parmi les arrestations auxquelles on a procédé il n'y a pas longtemps, on a constaté qu'il y avait ces accointances-là, et donc nous les avons dénoncées, et surtout nous avons demandé à la population de ne pas le faire, parce que si ça, d'une manière ou d'une autre, ça se retournerait contre elle. Et donc nous veillons absolument à ce que nous proposions une solution alternative, par exemple des brigades d'intervention rapide, des forces spéciales, pour que ces troupes, les miliciens, puissent trouver devant elles une armée assez aguerrie qui les mettrait hors d'état d'ennemi.
David Jolino Makelele, celui que Grande Interview reçoit pour vous aujourd'hui, il est ministre d'État chargé de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement. Avec lui, nous parlons de l'an 1 du gouvernement Ilukamba. Monsieur le ministre et porte-parole du gouvernement, volet économique et social, vous avez indiqué que cette première année a été marquée par un contexte peu favorable, tant sur le plan interne qu'externe, dû à plusieurs causes, dont principalement le Covid-19. Toutefois, des efforts ont été déployés dans les cadres de l'agriculture, le développement durable et les PME. Grâce à cela, la RDC a eu l'opportunité d'accéder à l'octroi des diverses facilités au titre d'appui budgétaire auprès des institutions des Bretton Woods. Ce sont vos propos, monsieur le ministre. On assiste aujourd'hui à une grande sociale dans le pays. Lorsque vous parlez avec les Congolais, en tout cas une grande partie des Congolais, je crois que vous faites cet exercice, vous sentez que la population est déçue.
Oui, madame, je dois rappeler encore une fois, nous sommes au gouvernement depuis seulement un an. Depuis seulement un an. C'est vrai, nous avons fait des promesses les uns les autres. C'était des promesses pour une législature, pour une mandature, si je veux dire, pour un mandat de 5 ans. Et comme l'attente était très grande dans la population, beaucoup pensaient que d'un coup de baguette magique, nous allions tout faire en une année. Cela n'est pas vrai, ne fût-ce que parce qu'il y a des contraintes et des calendriers, et puis il y a des moyens qu'il faut disponibiliser. Qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, parlons du pouvoir d'achat. Personne ne peut reconnaître que la mesure phare de ce gouvernement sous l'impulsion du président Tshisekedi, c'est la gratuité de l'enseignement de base, l'enseignement primaire. Si nous l'avons fait, Madame, il faut quand même en voir aussi les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est, par exemple, du pouvoir d'achat qu'on a rendu aux parents. Les parents qui envoyaient leurs enfants à l'école, il y en avait peut-être deux, trois qui envoyaient à l'école, mais qui n'en pouvaient plus. Les parents qui ne pouvaient pas, eux, envoyer un seul enfant à l'école. Mais c'est en voyant l'État prendre en charge tous ces enfants, ça veut dire que ce sont des dépenses à moins pour les foyers. Donc, on le voit peut-être pas directement, mais c'est du pouvoir d'achat qu'on a rendu d'une manière ou d'une autre aux parents. Mais surtout,
pour une personne qui touche,
j'arrive aux préoccupations sociales. C'est aussi une égalité des chances qu'on donne à notre pays et à nos populations. Pour ce qui est des augmentations de salaires, etc. Mais les augmentations de salaires ne peuvent se faire que lorsque la richesse augmente. C'est-à-dire qu'il y a une croissance. Et vous savez très bien que lorsque, au premier semestre de l'année 2000, dernier trimestre, par exemple, de l'année 2019, nous étions sur une pente de moins de 3% presque de croissance. Et que l'année qui a suivi, dans les trois mois qui suivaient, au mois de mars, nous avions déjà la pandémie à Covid-19. Vous me direz que la Covid a bon dos, mais on ne peut pas le nier. Et ce qui a fait que dans les pays occidentaux, actuellement, la croissance est sur une tendance d'à peu près moins 3 à moins 4% pour l'année prochaine. Chez nous, nous avons, compte tenu de la manière dont le chef de l'État et le gouvernement ont géré la crise de la Covid, nous pouvons espérer une croissance autour de 2% l'année prochaine. Quand il y a la croissance, il y a donc des recettes. Mais ces recettes-là, nous avons également dit que le PIB du Congo, c'est-à-dire l'ensemble des richesses qui peuvent sortir de la République démocratique du Congo, les experts ont évalué ça à près de 60 milliards. Et si on voit le taux la pression fiscale, imaginons même qu'il y ait une pression fiscale de 20%, s'il y a 20% des 60 milliards, ça fait quand même 12 milliards. Donc nous devons faire des réformes.
Mais monsieur le ministre, tout ce que vous dites là n'intéresse pas ce Congolais qui vit en pleine forêt équatoriale ou à Dibaya dans le Kasaï central ou encore à Mulungwisha dans le Katanga ou à Punia dans le Maniema. Les gens veulent du concret.
Du concret, il y a tout un processus pour en arriver au concret. C'est pas qu'on arrive au pouvoir, on trouve une caisse et puis on redistribue. Ça, je comprends. Mais il nous faut un devoir de pédagogie. Expliquer aux gens que ce qu'on va leur distribuer en termes de salaire ne peut provenir que de la production de notre intérieur, de notre pays. Et pour cela, il faut des réformes. Il faut une lutte sans merci contre la corruption, la concussion, etc. Parce qu'il y a un coulage des recettes auquel nous devons nous attaquer et les moyens sont déjà là. L'inspection générale de finances a été mise à contribution par le chef de l'État. Les audits sont menés à gauche à droite et une révisitation de notre législation fiscale. Tout cela va produire des moyens. Et puis, il y a l'industrie. L'industrie, nous avons fait en sorte qu'il y ait des zones économiques spéciales dans 4 ou 5 pôles qui vont bénéficier des exonérations des impôts. Il y aura des investisseurs qui viendront, qui vont créer des emplois, qui donc les gens seront des salariés. Il y a des petites et moyennes entreprises qui seront mises à contribution, notamment à travers les dispositions légales que nous avons prises concernant la sous-traitance. Il y a aussi la couverture des jeunes gens qu'on va mettre au travail à travers les brigades agricoles, etc. et les services des emplois de proximité à travers la formation professionnelle. Tout cela va prendre un petit temps. Je sais que c'est pas facile, mais nous voulons peser par ailleurs sur le vécu quotidien du Congolais. C'est comme ça que dans des choses comme l'électricité et l'eau, qui sont des éléments importants du social de base, nous avons écouté les plaintes de nos compatriotes qui nous parlent de factures d'eau et d'électricité qui augmentent. Et nous avons expliqué aussi à la Régie des eaux et à la SNEL qu'ils doivent communiquer parce que ce que eux ils prennent pour des provisions de paiement et qui peuvent être réajustées à la fin de l'année si vous consommez moins, la population prend ça pour des augmentations fantaisistes. Et donc il faut toujours veiller à cela. Et pour le reste, notre économie va subir des grandes réformes, comme je l'ai dit, qui nous permettront d'aller de l'avant. Et il faut aussi reconnaître que ce que nous avons fait maintenant, nous avons fait avec les comportements parfois délictueux de certains acteurs économiques. Mais on n'a pas, en ce qui concerne le rapatriement des devises, par exemple. Ce rapatriement ne s'est pas fait comme prévu par les textes légaux. Nous avons des opérateurs économiques qui ont gardé leur argent à l'extérieur ou qui ne l'ont pas rapatrié au niveau de leur banque privée. et les banques privées ne l'ont pas transféré au niveau de la banque centrale, la manière telle que on a dû manquer des devises. Et quand on manque des devises, naturellement, les devises deviennent chères, il faut donner plus de francs. Et donc, la valeur du franc baisse, on se retrouve dans la situation où le pouvoir d'achat peut baisser. Je sais que tout cela doit être commenté, expliqué. Je le ferai dans le langage que la population peut comprendre, pour que les gens comprennent que c'est vrai, il y a une impatience, parce que tout le monde pensait que le changement, c'est seulement le salaire qui va augmenter. Non, mais nous avons quand même fait quelque chose au niveau des enseignants. Regardez les enseignants qui ont maintenant un salaire moins mauvais que ce qu'ils avaient avant notre arrivée au pouvoir.
En parlant des enseignants, vous avez déclaré que 132 000 enseignants NP ont touché leur premier salaire. En tout cas, il y a des syndicats des enseignants qui ne sont pas d'accord avec vous. Plusieurs enseignants restent impayés jusqu'à ce jour.
Oui, il faut faire un distinguo entre ceux qui sont considérés, par exemple, comme les nouvelles unités et celles qui sont des non-payés.
Je parle de non-payés, monsieur le ministre.
Les non-payés, en principe, ça n'existe plus. Il n'y a plus de non-payés, donc tous ceux qui ont été recensés comme étant et ayant rempli les critères d'éligibilité sont payés. Alors, pour les nouvelles unités, par contre, c'est vrai, il y a eu une étude qui a été menée, un audit pour voir qui sont-ils. Alors, de près de 400 000 dont on nous parlait, on a recensé qu'il y avait près de 144 000 qui étaient éligibles à la qualité d'enseignant. Et donc, maintenant, nous avons commencé les discussions avec les syndicats, et ce sont des discussions qui ont commencé déjà depuis quelques temps, et nous avons abouti à des conclusions. Nous allons faire des augmentations par palier selon les moyens qui seront les nôtres au moment où nous allons les appliquer. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une préoccupation majeure, parce que nous continuons à dire et à penser que l'enseignement, c'est vraiment la base de tout développement. Et si nous n'arrivons pas à donner à nos enfants les bases nécessaires pour leur permettre de faire des bonnes études, nous risquons de nous retrouver comme nous le sommes aujourd'hui, avec une élite mal formée et donc avec des perspectives qui ne seront pas bonnes pour notre pays.
En santé, monsieur le ministre, quelles sont les réalisations de votre gouvernement une année après son entrée en fonction?
Dans le concret, il y a eu construction de 42 centres de santé sur toute l'étendue de la République. Et on a procédé à la réhabilitation des hôpitaux comme le camp Tchati, l'hôpital de Kokolo, le Fungula, etc. Et il y a un projet pour la réhabilitation de l'ensemble des grands centres hospitaliers du pays. Et à partir de là, c'est dans le secteur de la santé. Mais nous avons également, ne l'oubliez pas, que nous avions un programme concernant Ebola et nous avons pu, grâce à la perspicacité de nos médecins et en particulier du professeur Mouyembe et à l'impulsion du chef de l'État, nous avons vaincu Ebola, ce qui n'est pas une mince affaire et nous avons mis tous les moyens nécessaires à ce sujet, et à l'est du pays, je veux dire. Et maintenant, évidemment, il y a une résurgence au niveau de la province de l'Équateur. Nous pensons que nous viendrons également à bout de cette épidémie. Par ailleurs, nous avons affronter la COVID-19 et vous avez vu vous-même que sans trop claironner là-dessus, nous sommes l'un des rares pays à avoir eu un taux de létalité aussi faible, près de moins de 3%, et nous avons eu un taux de guérison de plus de 85% des cas. Tout ça, c'est parce qu'il y a une impulsion en matière de santé qui est visible.
Pouvez-vous nous dire exactement où ces centres de santé ont été construits?
Bon, les endroits, évidemment, je ne peux pas les citer tous, hein, mais si vous allez dans le Congo central, on en a à peu près 3. Vous allez dans le Bandundu 2, vous allez dans le Kasai, vous allez dans l'ex-province du Katanga, et même dans la province orientale. Donc, bon, j'ai pas tous les détails avec moi, mais j'ai des éléments concernant les localisations principales. Mais ça, ce sont des choses qu'on sait voir, et si vous avez besoin d'une documentation pour que je vous cite tous les 42 centres, je vous le ferai parvenir volontiers, parce que ces détails-là existent.
Monsieur le ministre, parlons de droits de l'homme. Vous avez vanté que grâce à votre gouvernement, la justice en RDC est en train de trouver ses lettres de noblesse avec l'avènement d'un état de droit tel que consacré par la Constitution. Vous avez poursuivi en disant qu'en ce qui concerne les libertés fondamentales et les droits de l'homme, non seulement que les services de sécurité ont été humanisés, les libertés fondamentales se déclinent aisément, les manifestations publiques ne sont plus brimées. Fin de citation. situation. Je reprends vos propos. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. La RDC a connu 4113 violations et atteintes aux droits de l'homme au cours du premier semestre de 2020 sur son territoire, soit une augmentation de 17% par rapport au semestre précédent.
Oui, nous disons d'abord, si vous suivez bien ce rapport, on attribue cela à certains éléments de nos forces et qui ont eu des comportements qui ne sont pas recommandables, si j'ose dire. En général, regardez, c'est que quand vous parlez des droits de l'homme, il y a aussi des droits fondamentaux des hommes, comme le droit d'aller et de venir, la liberté de s'exprimer, la liberté des réunions, etc. Et tout cela, ça constitue des libertés qui ont connu une éclosion particulière sous Félix Tshisekedi. Et pour ce qui est des violations particulières, je l'ai dit tout à l'heure, ces violations sont souvent le fait des personnes, souvent en armes ou provenant de ces entités-là, et nous avons pris les dispositions pour que des sanctions sévères puissent être infligées aux personnes qui sont prises en, disons, en situation de violation de ces droits. Mais ce qui est vrai, c'est que relativement à la situation antérieure, l'état de nos prisons, des services, des cachots, des services de sécurité, tout cela n'existe plus. Et aujourd'hui, si les gens peuvent parler librement, même faire des critiques, ils ne sont plus donnés comme avant. C'est un début. Il n'y a qu'une année que nous sommes au pouvoir, dois-je le rappeler, et pour que toutes les attentes puissent être exprimées comme si on avait fait un mandat.
On va terminer notre entretien, monsieur le ministre, avec cette question d'un auditeur anonyme qui demande pourquoi le ministre d'État chargé de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement est aphone. On ne l'entend jamais sur les grandes questions qui touchent aux institutions. Pourquoi il attend toujours les conseils des ministres pour s'exprimer via le compte-rendu?
Et d'abord, le conseil des ministres, c'est le lieu des décisions et du pays. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent et aussi, évidemment, ça a été dévoyé. Le conseil des ministres par le passé a été dévoyé. On n'en voyait pas une irrégularité particulière. Aujourd'hui, tous les vendredis, le conseil des ministres s'est réuni autour du chef de l'État, du Premier ministre, et prend les grandes décisions qui touchent à la nation. Donc, j'avais eu la faiblesse de penser que, puisque les décisions sortent, maintenant, il faut une autre chose et les communiquer. C'est vrai. Le problème aussi, c'est un aspect plus ou moins subjectif. Les gens qui me connaissaient avant dans l'opposition savaient que, bon, j'argumentais ou je cognais. Mais aujourd'hui, quel est l'adversaire sur lequel je dois cogner, si je veux dire? Il n'y en a presque pas. Il n'y a aucune force qui peut ouvrir une perspective aujourd'hui, à part la critique, des propositions concrètes aujourd'hui par rapport à ce que nous faisons.
Monsieur le ministre, même sur une question urgente qui demande des éclaircissements, il faut attendre le compte-rendu du gouvernement?
J'ai pris la mesure de cette observation, et c'est pas par hasard d'ailleurs que vous me voyez maintenant un peu sur le devant de l'actualité, parce que j'estime que, c'est vrai, cette modalité de communication, elle est essentielle, mais elle n'est pas suffisante pour s'adresser à la population. Et c'est comme ça que vous allez me voir me déployer un peu plus longuement dans les médias. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il ne faut pas parler pour ne rien dire. Il faut parler pour dire des choses concrètes. Et moi, ma préoccupation, mon dada, c'est la vérité. Quand je n'ai pas une vérité, je ne m'avance pas. Et quand j'avance quelque chose, il faut que je sois en situation de l'expliquer ou de l'exprimer, ou en tout cas de le faire vérifier.
Merci beaucoup, Jolino Makelele, ministre d'État chargé de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement.
C'est moi qui vous remercie.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais pour vous Jolino Makelele, il est ministre d'État chargé de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement, avec qui nous avons parlé de l'an 1 du gouvernement Ilou Kamba. Merci à Jean-Marc Matwaki qui a supervisé ce programme. La mise en onde était assurée par Paul Badianyama. Présentation et coordination Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro de Grande Interview. Mais en attendant, je vous souhaite de passer un agréable week-end sur la fréquence de la paix.